France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Le roi s'ennuie, fait la sieste en musique. Il devrait courir les rues de Lisbonne, au temps de la galanterie rigoureuse. Lisbonne, riche, mais où les épidémies font rage. On a beau brûler de la lavande et du romarin, allumer des brasiers à chaque coin de rue. Sur le Tage, la tour de Belém monte la garde du port et l'on commence à construire les Géronimos grâce à un impôt sur les épices et surtout sur le poivre. Heure de culture française, le Portugal, première diffusion sur France 3 nationale le 16 novembre 1959.
Nous allons entendre Madame Suzanne Chantal qui va nous parler de la vie quotidienne au temps du roi Don Manuel, c'est-à-dire au début de ce XVIe siècle dont les grandes découvertes ont fait le siècle d'or portugais.
Lisbonne manueline, Lisbonne fabuleuse du XVIe siècle, princesse en robe d'or, trop riche pour être sage, nouvelle riche, mais comme on savait l'être au temps de la Renaissance, somptueusement. La rue Neuve a 200 mètres seulement de long, mais elle est étonnamment large à cette époque où dans les ruelles étroites, deux voitures ne pouvaient jamais se croiser. Une centaine de maisons à toit de tuiles, ornées de girouettes, de balcons à colonnettes, de persiennes de lattis où parfois s'appuie un front blanc de femme. Le monde entier passe dans cette rue. Elle mène à la cathédrale et c'est le chemin obligatoire des processions et des cortèges. Lorsque Donna Léonore est allée épouser l'empereur d'Allemagne, elle y a défilé entre des tréteaux tendus de velours, de tapisseries et de draps d'or, avec de loin en loin des fontaines qui jetaient de l'eau de rose. La rue était alors fraîchement reconstruite sur les ruines fumantes qu'avaient laissées derrière elle, après deux sièges, les armées castillanes. Elle méritait bien son nom de rue Neuve, mais elle s'est appelée aussi rue des Marchands, et ce nom-là aussi elle le mérite, car elle est un souk, une halle. On y trafique de tout et l'or mobile du négoce y ruisselle. Ses échoppes abritent des lapidaires flamands et des parfumeurs arabes, des estampistes et des drapiers génois, et dans l'ombre odorante des boutiques s'entassent les trésors de l'Orient, les linges fins du Bengale, les impalpables mousselines kurdes, les soieries chinoises et les cachemires hindous, les tapis persans, les brocarts et les damas syriens. Et les essences rares dans leurs flacons opalescents, le santal et l'encens, l'ambre, le benjoin, le musc, et les pierres précieuses, perles de Ceylan, rubis birmans, diamants de Narsingue et l'or de Sofala, l'argent du Japon, le corail, l'ivoire, les bijoux ciselés de Chine, les monnaies barbares des Éthiopies. On y trouve aussi les porcelaines et les vernis de Pékin, les lacs perfilés d'or, les cuirs de cochin, les marqueteries et les délicieux petits meubles à tiroirs incrustés de nacre, les écritoires, les coffrets qui gardent le tenace et léger parfum de camphre et de mort de la vieille Asie. Mais le plus précieux, ce sont les épices et les drogues d'Orient. Girofles des Moluques, piment de Malabar, muscade de Banda, cannelle de Ceylan, gingembre de Malacca et le poivre de Bornéo. De quoi pourvoir toutes les tables royales d'Europe. Et l'Europe avide accourt apportant en échange ses richesses, velours rouennais, cristaux vénitiens, tapisseries d'Allemagne, enluminures, émaux de Tolède, et le blé et les laines d'Écosse, et les dentelles d'Angleterre et de Flandre. Tout cela passe par Lisbonne, s'y vend et s'y achète. 2000 bateaux entrent chaque année dans l'estuaire. Une forêt de mâts couvre le Tage, à la rive bruyante et fiévreusement active. On ne suffit pas au radoub et au calfatage à construire les nefs et à les réparer. Le roi Manuel, premier commerçant du royaume, fait construire à Anvers des galions pour puiser plus vite et plus largement aux trésors découverts. Les nefs partent chargées de pierres qui serviront de lest et construiront sur les côtes d'Afrique et des Indes les forteresses portugaises. Elles reviennent lourdes de cannelle et d'or, d'esclaves et d'animaux jamais vus. Sur les quais, les matelots vendent des perroquets, des singes. On offre aux infants des chat-tigres, des colibris aux infantes. Deux jeunes lions bâillent dans une cage devant un palais du Rossiou. Pour distraire la jeune reine, qui a eu des couches difficiles, on organise un combat féroce entre un éléphant et un rhinocéros. Mais le plus curieux, ce sont les sauvages. Les nègres n'étonnent plus, comme ceux que Gilles et Anne ramenaient au-delà du Cap Nan. On les importe à présent à pleine cale. Lisbonne pullule de noirs, souvent en guenille, et bientôt de métis. Les étrangers de passage s'étonnent de les voir plus nombreux que les blancs. Certains sont convertis, baptisés, balbutient un portugais hésitant. Mais les caravelles ramènent parfois des spécimens plus étranges, des pygmées, des femmes tatouées, deux cafres du cap qui s'expriment par des claquements de langue. On les exhibe sur les places. La foule se presse pour les voir, la foule bigarrée où se rencontrent le moine et le soldat, le clerc et le muletier mort. Sous les arcades de la rue Neuve se tiennent les couteliers, les rémouleurs, les potiers, les colporteurs et les crieurs publics. Au pilori vieux, on rencontre les financiers et les changeurs, et 12 écrivains publics, copiant en ronde et emmoulés les ordres et les contrats, se chargeant en outre des épitaphes et des lettres d'amour, toujours dans le style approprié. À la Ribera Velha, près du marché au blé, sont les meuniers, les bouchers. Le port est peuplé de marins de tout poil, de galériens à l'entrave, de soldats. Et tout cela, arbalétriers et changeurs, marchands et artisans, se mêle aux frères mendiants, aux juifs à triple barrette, aux pages, aux bourgeois en pelisse fourrée. Un vendeur d'eau passe avec ses seaux ruisselants. Une vieille offre des cédras, une jolie fille des confitures de jugoline. Un prêtre portant le viatique traverse un bal arabe où les mauresques aux beaux yeux dansent au son du luth et du tambour de basque. Un gentilhomme caracole en pourpoint à crever, chaussé et ganté de velours. L'usage de la soie est interdit aux simples particuliers, mais à la cour, même les mules et les chevaux sont caparaçonnés de soie. Les Portugais portent aux confins du monde les modes de la Renaissance. Si Vasco de Gama a gardé jusqu'à la mort son bonnet rond, uni et noir, Albuquerque arrive aux Indes en culotte d'écarlate, cape lombarde de satin orange doublée de satin gris, résille d'or et bonnet de velours. Les épées, les harnais sont enrichis de pierreries. Les maisons sont d'un luxe asiatique, avec des murs recouverts de bois de sarmatie, de bas-reliefs et de peintures. Le nouveau Paso de Ribera que Manuel a fait construire au bord même du Tage, pour pouvoir de ses fenêtres surveiller les chantiers navals, est orné de balcons et de tours. À l'intérieur, ce ne sont que miroirs d'ambre, coffres marquetés, courtines de velours, cuir doré, tables couvertes de vaisselle d'or et d'argent. Gorgé de richesse et de puissance, le roi Manuel pourtant s'ennuie. Il se lève, mange, fait la sieste en musique et fait venir de partout les meilleurs joueurs de harpe et de chalumeau. Son orchestre personnel de sacbutes, de timbales et de rebec l'escorte même à la promenade lorsque les beaux dimanches il descend le Tage en bateau pavoisé pour aller goûter en son palais de Santos, écoutant d'une oreille distraite les ministres qui l'accompagnent et lui parlent des affaires de l'État. Il a des bouffons castillans pour corriger ses courtisans de leurs vices et de leurs ridicules. Les soirées appartiennent aux troubadours, à la danse, à la glose. On adore les couplets improvisés à plusieurs voix. Les jeux de hasard sont en grande vogue. Par piété, le roi doit bientôt interdire qu'on joue le dimanche à la boule et au tintinini, au moins dans l'enceinte du palais et avant la grand-messe. Les cours d'amour gardent la poétique tendresse du temps du roi d'Inis. La galanterie est rigoureuse. Elles sont charmantes, les donzelles avec leurs larges jupes de soie craquantes, leurs cols de dentelle roides, leurs gorges demi-nues où brillent les croix de rubis et de perles, tandis qu'au petit doigt, elles portent l'anneau magique qui attire l'amour. Il y a les princesses érudites, Léonore Noronha qui rime en plusieurs langues, Johanna Vèche experte en lettres latines, et la belle et touchante infante Maria qui fut aimée de Camoens. Mais les bourgeoises et les dames de petite noblesse savent lire à peine, et vivent, captives ou presque, à la mode mauresque, brodant et priant à l'ombre des jalousies de bois peint. Elles ne sortent que pour aller à l'église. Les sermons durent des heures, mais tiennent lieu de gazette. On y apprend les départs des bateaux et leur retour, la découverte de nouveaux rivages et les exploits des Portugais à Malabar, à Mornéo. Combien de mécréants ont été baptisés par les missionnaires, et les naufrages et la liste des morts et des disparus sous des cieux incléments, en des mers ténébreuses. Rien ne décourage cependant les esprits audacieux. Le paysan fuit son champ, l'étudiant son école, pour vivre la grande aventure. Pas une gargote du port où l'on ne trouve un maître d'équipage prêt à vous engager, et des bateaux partent chaque jour. Les campagnes se dépeuplent. Bientôt le Portugal en est réduit à acheter le blé au pays auquel il en vendait hier. Si l'on cultive quelque chose, c'est la vigne, car le vin se vend bien et s'exporte à plein tonneau. Plus de maïs, plus de froment. Le miel portugais, cette merveille, fameux par toute l'Europe, tombe en défaveur. La mélasse de Cannes est moins chère et abonde. Bien qu'à Lisbonne, on compte 1500 négresses occupées au nettoyage, l'hygiène urbaine est lamentable. Les chevaux harnais dorés des gentilshommes piétinent les immondices. La vidange de la ville se fait dans un ruisseau fangeux qui dévale au milieu des rues. L'été, les mouches vertes bourdonnent autour des oreilles et des mains coupées clouées au bois des pilori, et les épidémies font rage. La peste de 1505 fait à Lisbonne 125 morts par jour. Pour lutter contre le fléau, on fait circuler dans les rues des vaches pleines, on brûle de la lavande et du romarin. Des bateaux entiers chargés d'herbes aromatiques descendent le Tage, et on allume au coin des rues des brasiers dont l'âcre fumée rend l'air irrespirable. Les enfants abandonnés sont milliers. La reine Léonore a fondé pour eux une œuvre, la Miséricorde, qui s'occupe aussi des fous, des prisonniers, des nobles ruinés. Le roi Manuel est le premier souverain qui ait prélevé une dîme pour les indigents. Il protège aussi les veuves des soldats et des marins, sans oublier les estropiés, les aveugles, les rescapés des massacres, des sièges et des naufrages, ceux qui ont perdu leurs dents par le scorbut, leurs membres sous le cimetière des Roumes, leurs tripes et leurs poumons dans les marais, les déserts et les jungles, ceux qui ont le sang pourri par le venin des flèches malaises ou les amours des prostituées d'Orient. Il y en a des milliers qui errent dans Lisbonne, montrant leurs plaies et psalmodiant le récit de leur malheur. On demande aussi l'aumône pour le rachat des captifs, la dot des filles pauvres, la conversion des idolâtres et la guérison des pestiférés. Opulent dans sa mise et dans son équipage, le Portugais, à commencer par le roi, est frugal. Le seigneur, comme ses gens, se nourrit de pain qui est fort mauvais et grignote des radis car le roi a fait arracher tous les oliviers qui donnaient à Lisbonne un air provincial. Mais sans cesse on fonde un couvent, on construit une église. Sur le Tage, la tour de Belin monte la garde du port, et sur la place du Restello qui a vu partir les nefs du Grand Vasco, s'élèvent peu à peu les Géronimos, grâce à un impôt sur les épices et surtout sur le poivre. Heureusement, cette époque magnifique et démente a trouvé son style, dont l'opulence un peu sauvage la reflète. C'est le style manuelin. Tout y parle de la mer. L'orgueil portugais exubérant et ingénu s'inscrit en pierre au fronton des églises. Et c'est là qu'aujourd'hui nous pouvons encore retrouver le reflet prestigieux de cette Lisbonne disparue, qui fut la ville la plus riche et la plus belle de son temps, qui détrôna Gênes et Venise, que toutes les capitales jalousaient, et qui voyait passer dans ses rues fangeuses la panthère enchaînée du roi d'Ormuse et le père des pauvres quêtant avec son nain, son âne et sa besace.
Nous venons d'entendre Madame Suzanne Chantal qui nous a tracé un tableau de la vie quotidienne au temps du roi Don Manuel.
Não me falem dessa rua, a rua que para mim foi a mais linda ainda. Sim, prefiro que te cales. Fala-me das horas dos do passado. Não me fales nesse tempo de quimeras tu eras.
Cette causerie a été diffusée pour la première fois sur France 3 Nationale le 16 novembre 1959. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.